Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Le Premier ministre Netanyahou annonce que Tsahal ne se retirera pas de la bande de Gaza tant que le Hamas ne sera pas complètement désarmé. Le président Trump entend adopter une approche plus discrète sur le dossier iranien et écarte pour le moment l'option militaire.
Les violents échanges de coups se poursuivent entre Kiev et Moscou. Un drone ukrainien frappe un gazoduc en Bulgarie. Et enfin, les Belges se préparent à l'éclipse solaire qui aura lieu mercredi après-midi. Et en fin de journée plus tôt, les opticiens sont en rupture de stock de lunettes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou assure que Tsahal ne se retirera pas de la bande de Gaza tant que le Hamas ne sera pas totalement désarmé.
Quant aux informations récentes, je tiens à être précis. Israël rejette le document en 15 points. J'ai entendu dire, vous n'avez pas dit cela. Je le répète donc, Israël rejette le document en 15 points. Tsahal ne se retirera pas tant que le Hamas n'aura pas désarmé. Quand je parle de désarmement du Hamas, j'entends le désarmement complet. Qu'il s'agisse d'armes lourdes, d'armes légères ou non, il s'agit d'un véritable désarmement, pas d'un désarmement de façade. Nous sommes actuellement en discussion avec les Américains à ce sujet. De plus, Tsahal continuera de contrer les menaces qui pèsent sur nos forces et sur nos citoyens, a déclaré le Premier ministre israélien en prélude du Conseil des ministres dominical. Selon des responsables sécuritaires du pays cités par le site N12, le Premier ministre Netanyahou aurait personnellement approuvé un retrait des troupes de Tsahal de trois petites zones proches de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il aurait toujours, selon ses responsables sécuritaires, changé d'avis. Au cours des dernières 24 heures, l'armée et les services de sécurité du pays auraient appris ce revirement de dernière minute dans les médias.
Et l'administration américaine, quant à elle, n'est pas inquiète par la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou de rejeter ce plan de désarmement du Hamas.
Les propos de Netanyahou ne nous inquiètent pas. Nous comprenons ses impératifs politiques en cette période électorale. Cela ne nous pose aucun problème tant qu'il continue de faire ce que nous lui demandons, notamment en ce qui concerne la limitation des frappes à Gaza, a affirmé un haut responsable américain à la chaîne israélienne N12, qui indique dans le même temps que le chef du gouvernement israélien s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président américain, Jared Kushner, la semaine dernière pour discuter de la situation dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Netanyahou lui aurait fait part de son scepticisme quant à voir le Hamas déposer les armes dans un avenir proche ou lointain.
Et le coordinateur du Conseil de la paix pour Gaza, Nikolaï Mladenov, tente de rassurer les Israéliens sur ce même plan.
Dans une interview donnée à la chaîne israélienne N12, le diplomate bulgare assure que son plan conclu avec le Hamas ne prévoit pas le retrait des forces de Tsahal de l'ensemble du territoire de la bande de Gaza. Tout se fera étape par étape. Si le Hamas ne respecte pas ses engagements, alors le processus s'arrête. Avant d'ajouter, ce que nous demandons, c'est que Tsahal ne déploie pas de troupes au-delà de la ligne jaune. Ce plan ne limite pas l'Israël dans ses ripostes à des menaces concrètes contre ses forces postées dans la bande de Gaza, a déclaré Nikolaï Mladenov, qui a assuré que son plan visait à empêcher un autre 7 octobre.
Et Nikolaï Mladenov assure qu'il n'y aurait eu aucun accord de paix sans les médiations turques, égyptiennes et qataries.
Mon expérience de ces 8 derniers mois m'a montré que sans l'Égypte et les autres médiateurs, la Turquie et le Qatar, nous n'aurions pas pu parvenir à un accord avec le Hamas. Sur la feuille de route, leur contribution a été absolument essentielle, a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu'un mécanisme de vérification sera mis en place pour garantir le respect de la feuille de route par toutes les parties. Je ne fonde rien de tout cela sur la confiance, et aucun d'entre nous ne le fait d'ailleurs, et nous sommes parfaitement conscients des risques à venir. C'est le terrain qui parlera. J'aimerais que les deux parties adhèrent pleinement à ce processus de vérification, a affirmé Nikolaï Mladenov.
Israël aurait demandé au Liban un transfert des dépouilles juives enterrées au pays du Cèdre.
Oui, c'est ce que révèle ce matin le journal libanais Al-Akhbar. Selon les informations de ce média affilié au Hezbollah, la partie israélienne aurait signalé aux représentants libanais la présence d'un grand nombre de tombes juives à Beyrouth et à Saïda, appartenant à des personnes ayant des proches vivant actuellement en Israël. La question aurait été soulevée dans le cadre de discussions concernant la libération éventuelle de prisonniers libanais incarcérés en Israël. Selon le rapport, Israël aurait proposé de transférer les dépouilles du Liban dans le cadre de ce qu'il a appelé un accord d'échange de prisonniers civils qui comprendrait le transfert des dépouilles et la libération d'une partie seulement des Libanais détenus à l'exclusion des membres du Hezbollah. Les diplomates israéliens auraient aussi réclamé la restitution de la dépouille du pilote israélien Ron Arad. Le représentant libanais aurait répondu à ce sujet ne pas avoir d'informations sur la localisation du corps du soldat de Tsahal tué par le Hezbollah lors de la première guerre du Liban. Aucune reprise des négociations ne serait programmée pour le moment entre les deux pays.
Selon Benjamin Netanyahou, l'Iran craint la réponse forte d'Israël en cas d'attaque contre son territoire.
Vous avez certainement remarqué un point intéressant. L'Iran attaque tous les pays de la région et même en dehors, sauf un, l'État d'Israël. Jusqu'à présent, il ne nous a pas attaqués. Il pourrait le faire, certes, mais pourquoi des semaines se sont-elles écoulées sans qu'il ne nous attaque ? Parce qu'il mesure la force du coup qu'il subirait s'il venait à décider de nous attaquer, a déclaré le Premier ministre israélien en prélude du Conseil des ministres, qui a indiqué que tant qu'il serait le chef du gouvernement de l'État d'Israël, il ferait tout pour empêcher la République islamique de posséder la bombe atomique, car l'existence de notre précieux pays, le pays de nous tous, l'existence d'Israël est non négociable, a-t-il affirmé. Les autorités israéliennes auraient à ce propos informé le CENTCOM qu'en cas de relance des activités nucléaires iraniennes, Israël lancera seul des attaques contre Téhéran. Le chef du gouvernement central américain Brad Cooper se trouve actuellement dans le pays pour une série d'entretiens avec les principaux responsables militaires israéliens, notamment avec le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir.
Et conflit au Moyen-Orient toujours. Le président américain Donald Trump entend adopter une approche plus discrète sur le dossier iranien.
Je suis prêt à laisser la pression économique croissante sur Téhéran faire son œuvre plutôt que de lancer une nouvelle offensive militaire, a déclaré le président des États-Unis dans un échange téléphonique avec le média américain Axios. Nous ne faisons que des négociations partielles avec eux. Nous observons simplement l'Iran, son inflation galopante et le fait qu'il n'a plus d'argent, a affirmé le chef d'État américain, qui a insisté sur le fait que la situation économique en Iran était très précaire. Je cite, ils n'arrivent même pas à payer leurs troupes. Notre blocus impacte leur activité économique et dans le même temps, le prix du baril de pétrole baisse, a déclaré Donald Trump, qui a indiqué que tout allait s'arranger comme, je cite, dans une partie d'échec.
La Russie et l'Ukraine se sont livrés à des frappes réciproques dans la nuit de samedi à dimanche. Frappes qui ont fait des victimes parmi les civils et de nombreux blessés des deux côtés. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales.
Lors de ces dernières attaques survenues dans la région frontalière russe de Belgorod, des drones ukrainiens ont tué 5 personnes et en ont blessé une vingtaine d'autres, dont un garçon de 4 ans, selon l'administration régionale. Des missiles russes ont frappé un immeuble de grande hauteur dans un quartier de la ville de Kharkiv, en Ukraine, tuant 2 personnes et en blessant 13 autres. Le ministère russe de la Défense a affirmé hier que ces frappes nocturnes avaient touché des entrepôts de drones dans la région de Kharkiv, ainsi que des dépôts de carburant et des stocks de matériel appartenant aux forces armées ukrainiennes dans le port d'Odessa. Il a indiqué en outre que ses forces avaient abattu 153 drones ukrainiens au cours de la nuit, notamment au-dessus de la Crimée occupée par la Russie, ainsi que sur la mer Noire et la mer d'Azov.
Et l'Ukraine promet une enquête après l'explosion d'un drone près d'un gazoduc en Bulgarie.
Selon les autorités de Sofia, le drone en question est un modèle utilisé par les forces ukrainiennes, mais il n'aurait pas été, selon eux, intentionnellement, je cite, dirigé vers la Bulgarie. L'ambassadrice d'Ukraine est convoquée à une réunion d'explication ce lundi. De son côté, Kiev a démenti samedi avoir visé la Bulgarie après l'explosion d'un drone à proximité du stratégique gazoduc transbalkanique qui relie d'ailleurs la Turquie à l'Ukraine, près de la frontière roumaine. En outre, l'armée allemande a révélé que 2 drones suspects et non identifiés avaient été détecté jeudi près d'une base militaire près de Bonn. Selon les médias du pays, le site stocke du matériel et des pièces détachées pour les systèmes Patriot. Cet incident survient quelques jours après la découverte d'un drone transportant des explosifs dans l'aéroport de Leipzig, dans une affaire qui fait l'objet d'ailleurs d'une enquête pour des soupçons de lien avec la Russie.
L'ambassadrice d'Israël en Belgique, Edith Rosenzweig Abou, quitte ses fonctions.
Installée à Bruxelles depuis sa prise de fonction en 2022, elle laisse derrière elle un mandat de 4 ans marqué par le 7 octobre 2023 et la guerre en cours contre l'Iran et ses mandataires terroristes. Durant cette période, la diplomate s'est imposée comme une porte-parole particulièrement combative de la position défendue par Israël et son gouvernement. Son style direct a provoqué à plusieurs reprises des remous. L'ambassadrice avait notamment réagi à un montage photographique publié par De Morgan qui associait des prisonniers israéliens et palestiniens libérés sous le titre « Toujours le père de quelqu'un, toujours l'enfant de quelqu'un », en objectant que Marc Dutroux était lui aussi l'enfant de quelqu'un. Elle a fait ensuite retirer sa publication évoquant un malentendu culturel, je cite, « Dans un entretien accordé à la DH à l'occasion des 600 jours de guerre, elle avait par ailleurs contesté la qualification de génocide à Gaza, invoquant les avertissements précédents, les bombardements, l'acheminement d'aide humanitaire et l'absence de conflit avec les Palestiniens de Judée-Samarie. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises sur notre antenne. l'Ukraine pour défendre la voix d'Israël dans le monde et c'est toujours avec une profonde gentillesse qu'elle répondait aux invitations de notre rédactrice en chef Lise Benkemoun. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de son parcours professionnel au service de l'État d'Israël.
La Belgique rend hommage aux victimes de la catastrophe du bois du Cazier.
Samedi 8 août, 70 ans plus tard, les noms des 262 victimes de la catastrophe du bois de Cazier ont été égrenés à Marcinelle en ouverture des cérémonies commémorant la tragédie. Entre chaque nom, la cloche Maria Mater Orphanorum a résonné sur le site de l'ancien charbonnage devenu lieu de mémoire et musée. Le Premier ministre Bart De Wever a rendu un hommage appuyé aux victimes. Marcinelle a ébranlé notre communauté et l'Europe au plus profond d'elle-même. C'est un héritage que nous devons préserver chaque jour, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le réseau social X. C'est pourquoi je m'adresse au peuple italien qui n'a jamais oublié ses fils. Je m'adresse aux habitants de Marcinelle, du Pays Noir et de l'ensemble du Hainaut qui portent cette blessure comme la leur, a déclaré le chef du gouvernement belge. Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost a lui insisté sur la dimension européenne de cette mémoire, de cette tragédie, tout en déplorant que ces commémorations aient pris par moment une tournure politique. Et pour cause, des militants wallons de la FGTB avaient tourné le dos au président du Sénat italien Ignazio La Russa, membre de Fratelli d'Italia, qu'il qualifie d'ailleurs de fasciste, un acte condamné par la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.
Et en Belgique toujours, et en prévision de l'éclipse solaire qui doit avoir lieu mercredi en fin de journée, eh bien les opticiens belges en rupture de stock de lunettes.
Toutes les 30 minutes, nous avons quelqu'un qui pousse la porte ou qui téléphone parce qu'il cherche des lunettes, raconte Thierry Saguert, opticien optométriste et porte-parole de l'association professionnelle des opticiens. Malheureusement, cela fait une semaine que l'on cherche auprès de tous nos fournisseurs et que l'on n'en a plus, ajoute-t-il. Il faut dire que l'éclipse attendue mercredi est un petit événement dans le ciel belge, bien qu'elle ne sera pas totale, près de 90% de son maximum. Il s'agit de la plus grande éclipse observable en Belgique depuis celle d'août 1999 et la suivante est attendue en 2090. Il semblerait donc que les Belges ne veuillent pas manquer cela. Ma crainte est que le public ait vraiment envie de regarder l'éclipse et qu'il fasse n'importe quoi pour pouvoir la voir, lunettes d'éclipse ou non. Les gens vont vouloir la regarder, ajoute Thierry Saguert.
Et enfin, pour terminer ce journal, on revient chez vous en Israël, mon cher Jonathan, où les magasins de cosmétiques français Sephora vont venir s'implanter.
Le géant français des cosmétiques s'apprête à ouvrir plusieurs magasins en Israël dans les prochains jours, mais sa sélection de produits sera beaucoup plus limitée que celle proposée dans les magasins du reste du monde, du moins pour le moment. Les magasins seront exploités par Glam 42, une chaîne de cosmétiques israélienne franchisée. Le 20 août, Glam 42 ouvrira ainsi simultanément 3 magasins et 5 boutiques intégrées à d'autres grands magasins. Les commerces Sephora ouvriront leurs portes au centre commercial Azrieli de Tel Aviv, à celui de Ramat Gan, mais aussi du côté de Jérusalem. 3 autres magasins devraient ouvrir prochainement leurs portes aussi. Dans un premier temps, les magasins Sephora en Israël ne vendront que la marque maison Sephora Collection et ne proposeront pas les marques tierces qui représentent la majorité pourtant des ventes des magasins Sephora dans le monde. Selon le site d'information israélien Ynet, LVMH, propriétaire de Sephora, considère l'ouverture actuelle de ce magasin comme un projet pilote et envisagera d'introduire d'autres marques de beauté dans les boutiques israéliennes si l'expérience s'avère concluante.